DW.
C'est le manque de démocratie, les institutions qui devaient assurer le contrôle du gouvernement, qui devaient assurer un contre-pouvoir, elles sont donc dans une faillite totale puisqu'elles ne fonctionnent pas. Et quand la rue ou la population se retrouve dans la rue à contester le pouvoir, il ne reste qu'une seule institution organisée, c'est l'armée, avec une organisation bien faite et un pouvoir coercitif, donc qui va profiter de cet instant-là pour s'installer à la tête du pouvoir, comme on a pu le voir au Soudan, voire même en Algérie.
Faut-il croire, lorsque l'armée parle de défense de l'intérêt du peuple en Algérie, c'est le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah, qui prend souvent maintenant la parole et indique le chemin apparemment. Pourtant, c'est Abdelkader Ben Salah qui assure l'intérim du président démissionnaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
C'est que finalement, le pouvoir qui s'installe après ces manifestations de la rue n'a pas la confiance de la rue et n'a pas les moyens coercitifs. Et donc, il va se retrouver que l'armée soit la seule institution, justement, à pouvoir garantir à la fois une pérennité de l'État et s'approprier les revendications du peuple et les transmettre, voire contraindre les régimes transitionnels à appliquer ces revendications du peuple.
Mais finalement, c'est l'armée qui profite de tout. Le cas en Égypte, à la fin, c'est le chef d'état-major de l'armée, le général Al-Sissi, qui va s'emparer du pouvoir au terme d'une contestation populaire qui a fait partir Hosni Moubarak.
Je pense que justement, l'exemple de l'Égypte emmène les peuples eux-mêmes à surveiller aussi leur armée. Il faut comprendre aussi que même si les chefs de l'armée peuvent être de connivence et très souvent le sont avec les détenteurs du pouvoir, la bonne partie de l'armée, c'est-à-dire les hommes, la troupe, n'est pas forcément hors du peuple, elle est dans le peuple aussi. Elle entend les revendications, elle comprend les revendications, elle peut même partager ses revendications. Et donc à l'interne, elle peut faire passer des messages, ce qui fait que l'armée devient ce canal. Et comme je l'expliquais, l'exemple de l'Égypte va amener des peuples, on le voit d'ailleurs en Algérie.
Et au Soudan aussi, justement, les manifestants promettent de continuer et rejettent ce qu'ils appellent un coup d'État.
Ce n'est pas l'armée qui commence la manifestation, elle surfe une vague. Donc si la vague se calme, s'il n'y a plus de pression, si les populations ne restent pas vigilantes, elle peut retomber dans ses travers. C'est pour ça que je dis que c'est un ensemble de facteurs qui doivent toujours maintenir la pression sur cette armée pour que la démocratie soit réellement appliquée. Et justement, quand la démocratie sera réellement appliquée, quand on n'aura plus cette faillite institutionnelle, ces déficits démocratiques, en ce moment, l'armée pourra rester dans son rôle purement d'armée et ne plus se mêler de ces questions.
Pourquoi est-ce que l'armée agit dans certains pays et n'agit pas dans d'autres ? Est-ce qu'elle n'intervient que lorsque ses intérêts sont en jeu ?
Oui, parce que les réalités sont différentes et puis parce que ce soit au Soudan ou en Algérie, comme on vient de le voir, l'armée surfe une vague. Il faut que la population elle-même montre une détermination accrue pour que l'armée bascule de son côté. Voilà, si la détermination de la population n'est pas accrue, elle n'est pas solide, comme vous voyez au Togo par exemple, aujourd'hui l'opposition elle-même ne parle plus d'une même voix. Et dans ces situations-là, au Tchad, l'opposition, la société civile a du mal à entamer la révolte. Donc il faut que la révolte soit entamée, structurée, forte et solide. En ce moment-là, l'armée est très souvent contrainte même de soutenir et de s'approprier les revendications du peuple.